Donc le type d'entrée sur les animations au choix, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et auquel on est confronté régulièrement pour proposer et aux enseignants d'entrer en activité de formation. Nous, on a cet écueil-là et cette difficulté-là. On a d'autres formations qui sont à public désigné, qui, elles, sont un peu plus intéressantes à mener, en tout cas, au niveau de l'engagement des enseignants, parce qu'elles correspondent soit à un besoin ciblé chez un public, soit à un profil particulier d'enseignant, donc par exemple les professeurs des écoles stagiaires ou les premières et deuxième années de titularisation, parce que dans ce cas-là, ils sont dans un parcours de formation continuée, ou alors des contextes spécifiques, quand on a des demandes qui nous remontent au niveau de la circonscription via les inspections que mène l'IEN ou par nos visites formatives, on a des demandes ciblées de formation, donc à ce moment-là, on propose une formation à la demande. Et on construit la formation à la demande. Et on a un troisième type, enfin, d'animation pédagogique, qui sont les animations obligatoires, qui, là, sont des entrées plutôt avec des problématiques institutionnelles, par exemple, dans le cas de nouveaux programmes ou de choses comme ça. Ça, c'est le contexte. L'analyse que moi, j'ai faite au sortir de la formation de l'an dernier, c'est que dans ce qu'on proposait, on n'avait pas ou très peu de propositions de formation qui étaient sur la base de l'analyse de la pratique professionnelle. Sauf dans les situations d'échange duel, quand on va en visite de classe, on est dans de l'analyse de pratique, de ce qui vient d'être fait, et parce qu'on met en relation ce que nous avons vu, enfin ce que nous avons avec nos yeux de formateur, certes, avec ce que l'enseignant pense qu'il a fait, et ce qu'il dit de ce qu'il a fait. Donc là, on est dans une situation particulière d'échange et d'analyse de la pratique. On a d'autres situations d'analyse de pratique qui sont, elles, ciblées sur des enseignants à public spécifique, donc les PES, comme je vous le disais tout à l'heure, et les enseignants première année ou deuxième année de titularisation, parce que eux, ils ont des visites de suivi qui sont programmées et institutionnelles. Mais du coup, ça concerne très peu de gens. Mon intention au niveau de la formation, c'était d'avoir une visée plus large au niveau du public des enseignants impliqués dans l'analyse de pratique, parce que l'analyse des gestes professionnels efficaces, il me semble, a plus un apport bien plus positif que des entrées qui seraient disciplinaires ou en tout cas sur lesquelles on a moins de prise. Quand on fait une animation pédagogique, on a peu de recul sur ce qu'ils en font. Donc du coup, l'analyse de pratique, c'est quelque chose qu'on peut accompagner avec un déroulement chronologique de visite. On peut voir les gens progresser, en fait. Ma deuxième intention, c'était d'intégrer Néopass dans ma pratique de formateur, parce que c'est quelque chose vers laquelle les plateformes de mutualisation de ce type, ce sont des outils qui sont amenés à se démocratiser dans la pratique des formateurs. Donc du coup, moi, c'était dans mon parcours de formateur quelque chose d'incontournable, il me semble. Ensuite, parce que j'ai toujours la préoccupation de confronter le faire avec l'intention du faire pour faire mieux autrement, ça c'est mettre les enseignants en progrès. Et puis, enfin, proposer un dispositif de formation qui mette en jeu les compétences professionnelles des maîtres. Nous, on a un texte qui oriente nos dispositifs de formation. C'est les compétences professionnelles des maîtres qui sont déclinées en 10 compétences distinctes qui vont de agir en fonctionnaire de manière éthique et responsable à organiser le travail de la classe. Je ne vais pas vous les détailler, mais du coup, on a ce référent sous le coude toujours. Donc deux problématiques conjointes, en quoi et comment la formation continue en circonscription peut offrir un dispositif de formation permettant aux enseignants de partager avec leurs pairs des gestes professionnels efficaces. Mon idée, ça a été de mettre en place quelque chose qui leur permette de partager, parce qu'ils sont tous, quelle que soit leur ancienneté, capables de faire des choses qui marchent. La deuxième donc problématique, c'était utiliser la vidéo formation de Néopass, mais quand et comment ? Donc pour les enseignants en formation continue, j'ai proposé cette année, j'ai inscrit à mon plan de formation une animation que j'ai appelée « Gestes professionnels efficaces », en ne sachant pas a priori si j'allais avoir des gens intéressés par ça, juste par le titre et puis quelques lignes sur le contenu. Donc du coup, mon postulat de départ, c'est que tous les enseignants mettent en œuvre des gestes professionnels efficaces. Mon idée, c'est de leur faire en prendre conscience, en fait. Pour leur donner d'abord un espace et un temps pour les mettre en relief, ces gestes professionnels efficaces, et donc du coup pour valoriser les enseignants. Nos enseignants ont du mal à se valoriser et à être valorisés. C'est vrai, quand ils sont inspectés, on leur dit c'est bien ce que vous faites. Quand ils sont visités par un CPC, c'est bien ce que vous faites. Mais au-delà de ça, voilà. Une deuxième piste, un deuxième enjeu pour la formation, se mettre en progrès. Donc du coup, développer des gestes professionnels nouveaux. Et comment je m'y prends? J'essaie de m'y prendre en leur permettant de mutualiser entre pairs pour mettre en conscience ces gestes et puis eux gagner en disponibilité, donc du coup s'économiser. Après, c'est vrai que l'intention n'est pas celle d'être modélisant, mais en tout cas de se questionner sur ce que je fais pour du coup essayer de le faire autrement et mieux. Donc du coup, ce que je propose au niveau de l'architecture de la formation, on a prévu à la circonscription un parcours de 9 heures qui se décline en deux temps distincts, 3 heures qui sont proposées en autonomie aux enseignants pour les aider à travailler sur un rendu, quelque chose qu'ils vont devoir donner à voir, donner à entendre pendant les temps de formation. Et ensuite, 4 rencontres de 1h30 successives qui vont, dans un premier temps, correspondre à la présentation du dispositif et des outils, du cadre et des outils. Et ensuite, 3 temps de présentation où 3 enseignants vont se succéder pour présenter ce qu'ils, eux, pensent être un geste efficace et pour proposer un écrit pour le mutualiser. Donc du coup, comment j'ai utilisé NeoPass? J'ai d'abord utilisé un extrait, une intervention enregistrée de Frédéric Soja sur l'utilisation de l'instruction au sosie avec des enseignants. Et comment des CPC se sont emparés de ça pour aider des enseignants à réfléchir sur leurs propres gestes. Et j'ai extrait seulement 2 vidéos de NeoPass. Lucie, c'est un extrait qu'on a vu hier où elle est filmée quand les élèves entrent dans la classe, quel est le rituel d'accueil qu'elle met en place en fait avec ses élèves. Et ensuite, un deuxième extrait sur ce qu'elle en dit, ce qu'elle dit de ce qu'elle fait. Donc là, au niveau du déroulement de la formation, la séance 1, c'est rapide. L'idée, c'est de les mettre en confiance. Alors, a priori, j'ai la confiance des enseignants parce que pour avoir balayé rapidement les enseignants qui ont postulé sur la formation, ce sont des gens avec lesquels j'ai déjà travaillé, qui savent comment je fonctionne. Donc du coup, il me semble que la confiance est déjà acquise et que s'ils se sont engagés dans ce dispositif, c'est parce que eux s'engagent dans un dispositif de formation pour aller chercher autre chose. Au niveau de l'intention, mon IEN, M. Hazelbauer, a validé et valorisé cette... qu'est-ce que j'ai fait là ? À valoriser ce dispositif de formation en me disant ce sera l'occasion peut-être de proposer à certains d'entre eux de poursuivre cette formation en postulant sur des actions de type maître d'accueil temporaire pour accueillir des collègues stagiaires dans leur classe. Ça pourrait déboucher sur autre chose. En tout cas, ça pourrait permettre à certains d'entre eux un prolongement dans leur pratique pour la mutualisation pour parler sur ce qu'ils font. Donc du coup, l'idée, l'instruction au sosie, est-ce que tout le monde est au clair sur ce que c'est? On propose à l'enseignant de se mettre à la place de quelqu'un qui viendrait le remplacer dans sa classe. Et du coup, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il sache pour se mettre exactement dans les chaussures de l'enseignant pour que tout fonctionne dans la classe comme s'il était là? Donc du coup, l'idée, c'est de descendre en profondeur dans le geste professionnel pour aller au-delà de la surface de ce qu'il se passe dans la classe et surtout pour aller au-delà du simple agir des élèves. C'est-à-dire que quand on décrit ce qui se passe dans la classe, il n'y a pas que ce que font les élèves. Il y a ce que fait l'enseignant, il y a aussi un espace, il y a un temps, il y a un déroulement chronologique, il y a des choses qui se succèdent, il y a des motifs, il y a des intentions, il y a des choses qu'on garde absolument, il y a des choses sur lesquelles on fait son deuil. Et tout ça, il est intéressant et pour moi, il me semble essentiel que chacun puisse se questionner à un moment donné là-dessus. Donc du coup, je me suis posé la question sur qu'est-ce que je vais proposer aux collègues, qu'est-ce que je vais leur proposer d'interroger. Alors je me suis dit, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Je me suis dit, je vais proposer les 4 entrées qui sont disponibles sur NeoPass. Donc l'entrée en classe et la mise au travail. Comment je fais pour aider les élèves à travailler et à apprendre? Comment je fais dans ma classe en cours double? Et comment je fais pour faire parler mes élèves? Alors pourquoi ça? Parce que justement, si je leur propose ces entrées-là, je pourrais leur proposer après, s'ils ont envie, d'aller en autonomie sur la plateforme NeoPass pour aller voir ce qu'il s'y dit. Parce que dans mon dispositif de formation, je n'ai que 9 heures qui leur sont dédiées, en tout cas sur le plan des animations pédagogiques. J'ai, à partir de l'intervention de Frédéric Sauja, que j'ai écouté hier pendant le temps de formation, élaboré cette grille d'aide à la formulation de l'instruction au sosie, où il proposait trois types d'analyses, trois choses à rendre compte, pardon, sur l'instruction au sosie, le rapport à la tâche, le rapport aux autres et le rapport à la prescription. Donc du coup, le rapport à la tâche, moi j'ai une formation EPS comme Sylvain, j'ai décliné la tâche en but, dispositif, critères de réussite et critères de réalisation, et j'ai décliné le rapport aux autres en l'enseignant, ce qu'il fait, l'enseignant avec ses élèves, l'enseignant avec un élève, un élève avec un autre élève, un élève avec les élèves, et j'aurais pu mettre les élèves entre eux. Mais... Et puis donc du coup, l'espace où, le temps, quand et au niveau de la durée. Alors tout ça, bien entendu, que c'est pas, je ne sais pas comment ils vont s'approprier cette grille. En tout cas, j'essaie de leur donner un certain nombre de points clés qui pourraient leur permettre de rédiger au mieux leur instruction au sosie. Et j'ai rajouté ce qui se peut se négocier, ce qui ne peut pas se négocier. Ça marche toujours comme ça. Ce à quoi j'ai renoncé, bah oui, je fais ça comme ça, mais du coup, je ne fais plus ça comme ça. Je ne fais plus ça. Et ce à quoi je pourrais éventuellement renoncer. Donc du coup, après, je leur proposerai un planning de présentation, avec trois séances successives. J'ai choisi les lieux, c'est pas du tout anodin, en fonction des personnes qui se sont inscrites. Parce que comme ça se passe pendant le temps de midi, il faut qu'ils aient la possibilité de se déplacer rapidement pour qu'on puisse mutualiser. Ça, c'est quelque chose qui me pose un vrai problème, moi. Mais bon, avec un temps de 15 minutes de présentation et 15 minutes d'échange, il va falloir qu'on soit super rigoureux au niveau du temps. Et je leur demande à chaque fois de prévoir une trace écrite à remettre au père. Alors bien entendu qu'on ne va pas rentrer dans la qualité de la trace écrite. L'idée, l'enjeu de la formation, elle est sur être capable de mettre à distance ce que je fais et ce que je dis de ce que je fais pour pouvoir mieux prendre conscience de ce que je fais et du coup en parler aux autres. Et au niveau de la mutuelle du travail entre pairs, c'est s'enrichir d'autres gestes. Donc j'ai essayé de me questionner sur les avantages et les difficultés de ce type de dispositif. Donc les avantages, ça permet la valorisation, ça permet de parler de et de parler sur, ça permet de mettre à distance en évitant l'observation directe, parce que filmer un enseignant en classe, ça pose forcément le problème du regard sur soi, mais aussi du regard du formateur, de celui qui est derrière la caméra. Pourquoi il regarde ça plutôt qu'autre chose ? Et puis pendant qu'il regarde ça et pas autre chose, il y a peut-être autre chose qui se passe ailleurs, que l'enseignant lui aura vu. Enfin bon, voilà, il y a la focale qui, moi, de toute façon, m'interroge. Ensuite, l'avantage de ce type de dispositif, c'est que ça peut constituer une entrée avant une visite formative qui pourrait succéder à ce type de formation. La difficulté, ben, c'est pas très économique, parce que du coup, ça concerne peu d'enseignants à la fois, certes. Ça multiplie les rencontres, donc ça prend du temps. Les lieux sont pas toujours faciles à choisir. Ça demande de faire des choix et d'anticiper les problématiques. Là, moi, en termes de temps, j'ai beaucoup de mal à ça. Au niveau des prolongements, donc faire de la vidéo pour permettre à chacun de faire de l'autoconfrontation, oui, sûrement, pourquoi pas. Pour l'instant, j'en ai pas les moyens. Ni matériel, j'en ai pas les moyens matériels. Un prolongement qui pourrait être une visite de classe avec un accompagnement du formateur, pourquoi pas. Un prolongement qui pourrait être d'explorer entre pairs et avec des pairs, avec des enseignants, les extraits vidéo de la plateforme, c'est-à-dire leur donner un temps où ils vont voir en autonomie, puis après, qu'est-ce que vous êtes allé voir, qu'est-ce que vous y avez vu et qu'est-ce qu'on pourra en dire à plusieurs. Mettre en lien, évidemment, avec ce qu'évoquait tout à l'heure Sylvain, les évaluations d'école, c'est un nouveau dispositif dont on s'est tous emparés et qui, nous, fonctionne plutôt bien dans la circonscription. Et de ces évaluations d'école, de toute façon, en équipe de circonscription, on se rend bien compte que ce qu'il en ressort, c'est qu'il va falloir qu'on mette en place un accompagnement spécifié, en tout cas dédié à une problématique spécifique qui est sur une équipe d'école, pour que chacun, dans son agir, puisse participer à. Et enfin, donc du coup, repenser forcément l'offre de formation en circonscription.
Deux choses qui me semblent vraiment... D'abord, merci beaucoup, parce que on est exactement dans ce qu'on cherche à susciter dans ces... ici, c'est-à-dire que on a une collègue qui recompose dans sa propre activité ses ressources. En même temps, on a un excellent moyen d'évaluer la formation de l'année dernière, parce qu'on voit que cette collègue-là, elle a fait du chemin
au sens, voilà, elle a cheminé, et c'est ça la formation, et qu'elle cherche de nouveaux équilibres précaires, modestes, entre ce qu'elle essaye de faire et ce que ça lui demande pour le faire. Donc, on est dans le modèle dans lequel on travaille. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de dire, si j'étais à ta place, et quand je regarde ta fiche de PrEP, puisque c'est sa fiche de PrEP qu'elle nous montre, hein, qu'est-ce que je ferais comme toi, ou qu'est-ce que je ferais pas comme toi, quel conseil je te donnerais en tant que père. Moi, en tant que père, par exemple, j'aurais envie de te dire 15 minutes plus 15 minutes, oublie.
Ah, mais du coup, je vais faire ça toute l'année. Mais...
Et donc, comment tu vas faire avec ça? Enfin, c'est la chose que moi...
Je suis certaine de me retrouver confrontée à ça.
C'est-à-dire, vous savez, c'est ce qu'on fait. On sait bien que ça va pas passer, mais comme c'est une contrainte qu'on a, ben, on se dit, oh, ça va peut-être passer quand même. Bon, mais sans doute que, voilà. Et en tout cas, moi, ce que j'aimerais, donc au-delà de la discussion qu'on a là, c'est que, à la session du printemps, elle revienne nous parler de ce qu'elle a fait. Et donc, voilà. Jérôme qui est là nous expliquera aussi nous expliquera ce qu'il souhaiterait faire. Mais typiquement, je pense que ça pourrait bien rentrer aussi dans l'accompagnement de ce que souhaitent faire Jérôme et Sabine. Ils vous en parleront tout à l'heure. Questions, réactions, propositions, interventions.
Tout d'abord, merci. Effectivement, c'était tout à fait intéressant. Alors, j'aurais une question pour vous, mais en même temps aussi pour les autres utilisateurs de Neopass, parce que vu l'année écoulée. J'aurais voulu savoir ce qui peut être mis en place ou ce qui a déjà été mis en place pour capitaliser finalement les acquis d'une formation. Donc ici, il y a la formation, il y a l'idée d'amener une mutualisation, réflexivité, etc., etc. Mais à un moment donné, les profs ou les formateurs retournent quand même dans leur environnement premier. Et donc, comment fait-on pour que les acquis dans ce type de formation soient capitalisés et puissent être reproduits?
Ben, nous, ça se passe sur le mode de la mutualisation. J'ai la chance d'être conseillère pédagogique en EPS. Donc, du coup, il existe d'un point de vue institutionnel un groupe des conseillers pédagogiques en EPS qui est chapeauté par les CPD, conseillers pédagogiques départementaux. Donc, à cette occasion-là, on partage avec nos pairs. Et donc, du coup, là, on mutualise. Et la mutualisation se fait par affinité, en fait, à la demande. Quand des besoins sont formulés, on y répond. Et puis, c'est au gré de nos rencontres, en fait. Mais ça nous manque vraiment, le fait d'avoir quelque chose de plus institutionnel pour partager. Ça se fait de manière spontanée, en fait. Et puis, via ce groupe-là.
Mais ma question était peut-être un petit peu différente. C'est de savoir comment, quand, à un moment donné, vous n'êtes plus à côté des profs,
ouais.
Comment est-ce que eux peuvent reproduire les bons gestes, aller vers le changement et ancrer tout ça en eux pour capitaliser et le réutiliser?
Ça, je ne maîtrise pas. Je n'ai pas prise là-dessus. Et j'ai pas les moyens d'avoir prise là-dessus. Après, c'est vrai que c'est quelque chose. Je me suis engagée dans un master l'an dernier. J'ai fait un master en FIAPS et pas le leur. Je ferai ça dans un autre temps. Et c'est vrai que ça m'a posé question, c'est-à-dire que, et ça me manque en fait, de pouvoir suivre les incidences et les progrès qu'ils font. Et j'aurais besoin de mettre en place un dispositif de suivi en fait. Ce que j'arrive à lire et les retours que j'arrive à avoir, c'est quand je vais en fin de formation ou quand je vais à la rencontre de mes collègues. C'est eux qui ils sont demandeurs, donc du coup c'est eux qui systématiquement en fin de formation on se met en projet et qu'est-ce qu'on pourrait construire à la suite de ça, et donc du coup d'une année sur l'autre j'essaie de m'y tenir, je tente de monter des actions de formation qui correspondent à la demande à leur demande et qui viennent en adéquation avec un parcours de formation. On apprend aux enseignants à réfléchir en parcours d'élèves. Moi, j'essaie de réfléchir en parcours d'enseignant, parce que c'est ma mission de formateur, quoi.
Bonjour. Merci pour cette intervention. Juste une question. Pour l'instruction au sosie, c'est vous qui menez l'instruction au sosie, donc c'est entre pairs?
Non. Normalement, l'instruction au sosie, c'est à deux. Moi, je l'ai vécu en master avec une collègue. Là, l'idée, c'est qu'il place à l'écrit, en fait, le sosie, l'instructeur, va être invisible, si tu veux.
D'accord.
Est-ce que tu peux repréciser peut-être ce que tu entends par cette démarche-là? Peut-être
revenir sur la vignette de l'instruction saisie.
Voilà, parce que peut-être ça, comme toi, tu as un implicite déjà qui...
Attends,
qui...
t'es là.
Explique-nous pourquoi tu veux utiliser ça.
L'instruction saisie, c'est... en fait, normalement, ça se passe à l'oral. T'es questionné par quelqu'un qui te dit, voilà, je viens à ta place demain dans ta classe, il faut que tu me dises tout ce à quoi je dois penser, tout ce que je dois faire à ta place pour que les élèves ne se rendent pas compte de la substitution. Donc du coup, le problème de ça, c'est quand on le fait à l'oral, c'est ce que moi j'ai vécu comme ça, hein, quand on le fait à l'oral, en fait, dans ton discours, il me semble qu'on manque d'une trame, on manque de lisibilité, on pense à plein de choses, mais c'est pas forcément très bien organisé. Donc je me suis dit, si je propose ça, parce qu'on aurait pu faire ça par deux, faire un travail de binôme, mais du coup, je me suis dit, si on part comme ça, comme je maîtrise pas bien a priori, la structure de cette situation, je vais avoir du mal à la mener, moi, en tant que formateur à l'extérieur, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai besoin d'une trame. Et c'est pour ça que, et d'ailleurs, Frédéric Soja l'évoque dans son intervention auprès des collègues, c'était l'année dernière, je crois. Il donne la trame, c'est donc, du coup, sur ces trois pôles, le rapport à la tâche, le rapport aux autres et le rapport à la prescription. Donc du coup, si tu ne donnes pas un minimum d'indications pour que le collègue il structure son propos, on va partir tout azimut et je suis pas sûre qu'il ait une bonne conscience de ce qu'il dit et ce qu'il fait après, quoi. Donc du coup, mon idée c'était celle-ci, c'était de proposer une trame et lui proposer de rédiger les choses pour à minima les organiser. Après, dans le temps de présentation, dans ces 15 minutes-là, il aura sous le coude la trame qu'il aura rédigée. Donc du coup, il me semble que je peux faire le pari qu'a priori, ça devrait être plus organisé.
Et est-ce que l'idée de donner la trame aux autres avant l'intervention
Oui, ça pourrait en tout cas cibler le questionnement et puis leur permettre d'aller chercher ce qu'ils n'ont pas perçu et ce qui pourrait aider à encore mieux prendre conscience d'eux. C'est une bonne idée, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je garde.
Est-ce que vous avez écrit ce que vous attendez du dispositif? Comme s'il y avait un formateur sosie.
Non. J'ai pas fait ce travail-là encore.
C'est ce qu'on est en train de faire, hein. C'est-à-dire que là, on essaye de l'emmener dans les détails de sa propre activité et dans notre questionnement, là, c'est ce qu'on est en train de faire plus ou moins. Hein. C'est-à-dire, il y a des trous dans ton activité que nous, on entend et on te dit, est-ce que c'est un implicite dans ta tête ou c'est juste que tu les as pas encore pensés suffisamment précisément? Et c'est une activité qui est très très compliquée à faire, mais on voit bien, y compris, est-ce que l'instruction sosie, ça peut passer à l'écrit? À quelles conditions? Pourquoi? Enfin, est-ce que c'est un changement utile? Bon, il y a des collègues là qui sont un peu spécialistes de ça, qui pourraient nous dire leur avis, s'ils le veulent. Madame?
Moi, je découvre... Bonjour. Merci de votre intervention et des pistes que vous tentez d'ouvrir pour à destination donc des animations pédagogiques, de manière très précise, très concrète. Cette instruction sosie, je ne connais pas ce dispositif, je le découvre, c'est très intéressant, mais le passage à l'écrit m'interroge. Je me disais que l'interaction qui va pouvoir s'installer entre deux enseignants, du coup, doit pouvoir être un temps, justement, de mise à distance et de prise de conscience de sa pratique, de ses pratiques, de leurs pratiques, peut-être précisément que cette oralisation peut devenir un objet à conserver, du coup passer par des enregistrements, des choses comme ça, et être réévalué, réétudié, réécouté, réanalysé en se disant... afin de mettre en évidence les constantes, les différences, et aller vers ce schéma-là qui est sous-jacent, rapport à la tâche, rapport aux autres, et l'instruction, rapport à l'instruction. Donc là, il y a peut-être un outil, du coup, dont on pourrait s'emparer comme objet formatif.
J'entends que votre remarque me pointe le fait que le passage à l'écrit peut être source de difficultés pour certains. Et que du coup, le format audio était quelque chose à retenir, absolument. J'avais pas envisagé, mais ça peut être quelque chose de facilitant. Oui, effectivement. Parce que du coup, l'intention sera la même.
Jean-Claude, peut-être que tu peux dire juste... Oui, comme beaucoup de personnes ici ne connaissent peut-être pas cette méthode d'analyse du travail qui, qui nous viennent du, qui a déjà pas mal de temps, hein, puisque c'est au cours des années 60-70 que Ivar Rodon à la Fiat à Turin, qui était médecin du travail, psychiatre même, puisqu'il s'intéressait aux problèmes de souffrance au travail déjà à l'époque, s'était rendu compte que lorsqu'il interrogeait des opérateurs sur leurs difficultés, donc sur les postes de travail, il s'était aperçu qu'il ne décrivait pas précisément ce qui les mettait en difficulté, mais plutôt ce qu'il pensait qui pourrait les mettre ou qui pouvait les mettre en difficulté. C'est-à-dire que l'opérateur spontanément ne décrit pas ce qu'il fait vraiment, mais plutôt ce qu'il pense qu'il faudrait faire, quoi. C'est-à-dire, spontanément, le discours va s'organiser autour de la prescription telle qu'elle a été perçue et ressentie et interprétée. Et donc, pour contourner ce problème, qui fait que, bon, pour un opérateur, il est extrêmement difficile, quel qu'il soit, hein, que ce soit un opérateur sur une chaîne de montage ou que ce soit un enseignant dans sa classe, il est extrêmement difficile de décrire comment on s'y prend pour faire. Pourquoi ? Parce que plus on est expérimenté, plus il est difficile d'avoir conscience spontanément de comment on s'y prend pour faire, puisqu'une grande partie de ce qu'on fait est automatisé. Et donc c'est pas par mauvaise volonté, c'est pas par incompétence, c'est parce que c'est pas possible. Et donc pour contourner cette difficulté, Ivar Rodon a trouvé cette astuce qui consiste à dire voilà, c'est moi qui vais te remplacer sur ton poste de travail. Il faut faire en sorte que tu me donnes toutes les informations nécessaires pour que personne ne s'aperçoive de la substitution de la tâche. Le rôle du sosie étant d'aller dans le détail le plus concret, c'est-à-dire d'éviter le discours superficiel langue de bois, apprêté, celui qu'on retrouve dans la prescription. Hein. Il ne s'agit pas de critiquer la prescription, elle est utile, elle est nécessaire, mais bon, elle ne renvoie pas à la réalité. Et de faire descendre l'opérateur dans la réalité de ses actions les plus concrètes et des opérations les plus inconscientes. Et donc de lui demander à chaque fois de compléter dans les détails. Alors ça demande pour le sosie d'avoir une représentation, c'est-à-dire d'être affecté par la situation. Parce que s'il n'est pas affecté par la situation, on va retomber dans un discours formel, apprêté. Donc là, c'est pour obliger l'opérateur à descendre dans les opérations les plus concrètes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, de descendre dans les opérations les plus concrètes, on met à jour les dilemmes, les compromis provisoires qu'on a passés avec la réalité, les difficultés du métier, et non pas les évacuer comme on le fait spontanément dans un discours. Alors sur la question de l'écrit, bien sûr qu'on peut on peut le jouer dans la mesure où on est à l'écoute de ce que l'autre dit et non pas dans une interprétation permanente. C'est pour ça que la question de l'écrit elle est pas problématique. Il y a deux sortes d'écrits qu'on peut produire avec l'instruction au sosie. Il y a une transcription qu'on pourrait faire après coup sur un enregistrement de l'instruction au sosie. Un enregistrement audio, on peut faire la transcription de ce qui s'est dit objectivement. Mais on peut aussi utiliser ce que le sosie prend comme note de ce qui a été dit par l'opérateur. Et on peut travailler sur ces deux dimensions. Il y a une dimension subjective, une dimension objective. Voilà, donc l'écrit peut être utilisé de cette manière-là, sans demander à l'opérateur de décrire son activité, ce qui est enfin, de mon point de vue, je vois pas ce que ça pourrait apporter de plus. Par contre, provoquer un contact social avec lui-même parce que les autres ont pu prendre comme note ou les transcriptions qui ont été faites de ce qui a été fait, en sachant que bon là ça nécessite un petit équipage, un équipement méthodologique et pour analyser les transcriptions. Mais puisqu'on va s'intéresser non pas à des dimensions linguistiques, mais plutôt à l'énoncé concret, ce qui se dit, ce qui se répète, ce qui n'est pas dit, et qu'on peut deviner dans ce qui est dit, voilà, c'est à partir de là qu'on peut mettre à jour, les points d'achoppement, quoi. L'intérêt étant de regarder non pas ce qui marche, mais ce qui met en difficulté. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est les compromis provisoires que l'opérateur a passé avec la réalité, quoi, et qui l'aide à tenir et à être efficace à la fois sur le plan subjectif et à la fois sur le plan objectif. Hein, l'efficacité ayant ces deux aspects.
Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'utiliser la technique de Vermeersch, l'entretien d'explicitation, une fois avec le formateur et une fois où c'est un stagiaire qui fait expliciter à son père. Non ?
Pourquoi pas ?
Ça marche bien, ça, dans l'église, donc ça peut marcher en formation.
Pourquoi pas ? En tout cas, j'entends de votre intervention que de ce qu'il va se dire, des présentations qui vont être menées, je vais pouvoir interroger les traces que gardent les collègues, les pères, de ce qu'ils entendent, pour pouvoir après peut-être les mutualiser et puis s'interroger à la suite de ça sur ce qu'on en garde.
Juste par rapport au passage à l'écrit, alors moi ça je l'ai vécu l'année dernière, donc jeune conseillère pédagogique au PS, interviewée par une plus ancienne qui était en train de passer un master et qui m'a donc fait jouer ce rôle-là. Et quand on est dans la situation où on doit expliciter tout ce qu'on fait, je pense que du coup, même pour nous, ça peut être intéressant que ça soit fait en deux fois. C'est-à-dire qu'il y a la première fois où on est pris à chaud et où effectivement, j'ai pas pu relire ce qui était retranscrit, mais ça doit être extrêmement brouillon quand on n'est pas préparé. On part tous azimuts. Et qu'après, on puisse avoir cette grille-là pour reconstruire en fait au fur et à mesure tout ce qu'on fait et comment on le fait, je pense qu'en deux temps ça pourrait être vraiment très très intéressant du coup. Deux parties.
Donc du coup j'entends qu'il va falloir que je programme des rencontres toute l'année. Je pense que je vais les voir souvent, ces collègues.
on va prendre des dernières interventions et puis après on va avec les collègues. Je voudrais qu'on aille vraiment manger à midi moins le quart parce qu'après c'est compliqué au niveau de la file d'attente dans la cantine.
Oui, simplement, il me semble que toutes ces méthodologies d'analyse du travail, on peut prendre le temps de les discuter. En tout cas, Jean-Claude met en avant l'une des particularités de ce travail d'instruction en sosie. Ce qui était aussi particulier, c'est que c'était des ouvriers souvent analphabètes et que le but pour l'entreprise, c'était quand même d'arriver à conserver leurs bonnes pratiques, leur expertise, et qu'ils ont trouvé une médiation, en tout cas une façon de faire, permettant de recueillir un certain nombre de savoir-faire professionnels très importants pour l'entreprise. Il me semble que à chaque fois c'est différent parce que c'est vrai que l'entretien d'explicitation, on est beaucoup plus sur une réminiscence de l'expérience avec des éléments très profonds, et on n'est pas du tout sur la même recherche. Mais par contre, ce qui me semble important, c'est que lorsqu'en tant que formateur, si vous familiarisez à ce type d'outil, On peut progressivement trouver son propre style sans forcément vouloir à tout prix refaire du Thoreau, du Vermeersch ou de l'instruction en sosie telle que la première formule. Donc c'est vraiment des outils de communication. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer de comprendre un peu vos techniques, vos usages, ce que ça génère. Est-ce qu'il faut être récalcitrant ou est-ce qu'au contraire il faut laisser le fil et il faut laisser la personne beaucoup plus s'exprimer ? À quel moment intervenir ? Donc là, je pense qu'il y a une méthodologie ad hoc recherche, mais ensuite on peut se construire un style par rapport à sa façon d'utiliser ces méthodologies. C'est pas parce que vous allez les dévoyer un peu ou les changer de leur origine que ça pose problème. On peut imaginer ces panachages-là. Par contre, en ayant cette vigilance de ce que ça peut générer. Et c'est vrai que là, ça oblige à avoir quand même ce climat de confiance, de relation, et ensuite de savoir ce que vous allez faire de ces matériaux. Est-ce que ça reste dans la confidentialité, dans le huis clos de deux personnes, dans le rapport dialogique ? Comment vous allez en extraire des éléments pour la formation et quelles sont les règles déontologiques à avoir pour pouvoir user de ces matériaux en formation ?
Pour sans aller sur le fond, mais il y a un certain nombre d'entrées comme ça et on vient de me dire que déjà ma diapo n'était pas complète et je m'en excuse, mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a là quelques pistes théoriques organisées. Donc il ne s'agit pas ici de les noter, on n'a absolument pas le temps de rentrer aujourd'hui dans ces finesses, mais c'est le genre de choses qu'on peut faire, par exemple, dans le master formation de formateurs qu'on a monté à Lyon ou dans d'autres formations. On peut aussi vous ouvrir des espaces de discussion, de controverse sur ces choses-là, parce que c'est en s'outillant théoriquement sur ces questions-là que progressivement, on devient capable de mettre à sa main, et je partage ce que Luc dit sur le fait que il y a la partie recherche qui sert à développer des connaissances, puis après il y a la partie action, formation, etc. Et que dans cette situation, sans arrêt, on bidouille et on met des choses qui vont devenir des dévoiements, des transformations des modèles théoriques, et bien évidemment c'est nécessaire dans l'action.
Par exemple, les autoconfrontations pour Romain et le thème 1 ne sont pas des vraies autoconfrontations. On ne travaille pas comme ça. j'avais quand même un peu comme souci de m'adresser à un public d'enseignants débutants. Et donc, il y a une sorte de double adressage à Romain. Et puis, je posais des questions comme si j'essayais de mettre dans la boucle des personnes potentiellement en formation. Donc, quand, par exemple, Marc Durand ou d'autres voient ces autoconfrontations, ils considèrent que c'est plutôt des autoconfrontations de formation et non pas de recherche.
Bien, donc si la contribution précédente était qualifiée de modeste par son intervenant, la mienne sera très très modeste. Simplement, donc je voudrais, donc tu as traité le point 1, c'est-à-dire l'origine de cette intervention de formation en formation de formateur. Donc, disons que ce que je voudrais vous relater, c'est en gros une expérience. Je pense que c'est important que les collègues sachent ce qui s'est passé au sein de cette formation de formateurs. C'est une expérience de développement professionnel pour des formateurs par l'analyse du travail. Vous avez eu un petit extrait hier d'une diapo. Bon, j'ai pas de PowerPoint, hein, je m'en excuse. Je rentre pas dans le cadre, je suis pas l'organisateur. Ce que je voulais simplement dire, donc cette formation de formateurs qui a été menée par Patrick, Jean-Claude Mouton, etc., avait, mais ça je l'ai eu avec le recul de l'analyse de cette situation, à mon avis un objectif, c'était, et c'est ce que je voudrais renvoyer aussi en termes de questionnement auprès de l'équipe Néopass, avait aussi le souci d'une appropriation de cette démarche, à mon avis, orienté activité auprès des formateurs. Quoi. Donc le stage s'est déroulé de la façon suivante. Hein, il y avait un caractère institutionnel puisqu'il était reconnu par l'administration comme 4 fois une journée filée sur l'année scolaire. On a eu des apports de Patrick sur les modèles de l'activité, tels que vous avez pu voir avec le simplex de Lucria, Dominique Bucheton. On s'est particulièrement centré, habilement mené par Patrick, sur une situation. On pouvait pas. Le métier de formateur est très large, mais on s'est centré sur la situation de visite, principalement des néo-débutants en situation de classe, et donc de l'entretien qui est mené par les CPC. Alors le public qui assistait donc à cette formation de formateur était mixte, hein, CPC, conseiller pédagogique, IUN, de l'ensemble du département. Donc c'était l'objectif étant dans un premier temps de nous mettre en situation collective d'une analyse de classe, de situation de classe et d'un entretien qui avait été mené par un collègue d'une autre académie, et de faire un retour sur cette analyse pour susciter en fait des controverses. Hein, tu me dis si je lis bien ta pratique de formateur. Et donc à l'issue de ces controverses, il y a eu des dilemmes qui ont été mis en avant donc par le groupe, par ce collectif. Et donc le contrat a été passé d'essayer de travailler sur ces dilemmes en mettant en œuvre une démarche de notre analyse du travail propre, notre activité de formateur en situation de conseil. Donc pour ça, il nous a quand même un petit peu guidés, puisque nous étions des novices dans ce domaine-là, il nous a outillés avec des présentations, je ne me souviens plus quelle est la forme, mais de tout ce dispositif qui est présenté qui est issu du champ de l'analyse clinique du travail, qui est les entretiens d'autoconfrontation, l'instruction au sosie, les autoconfrontations croisées. Je suis désolé si j'ai un rythme de parole soutenu, mais le temps imparti étant très limité.
On va prendre du temps.
Voilà. Donc, nous avons expérimenté des situations de d'analyse de notre travail à travers ces situations d'autoconfrontation, d'autoconfrontation croisée au sein de notre activité. C'est-à-dire qu'on a concrètement, on a mis les mains dans la pâte. Donc vous avez une illustration. Donc il y a eu des visites, de néo-débutants, enfin de T1 et de PES qui se sont déroulées sous le cadre traditionnel d'observation de classe et entretien. La donnée supplémentaire, c'est que l'observation de la classe et l'entretien étaient également supervisés entre guillemets par un autre conseiller pédagogique qui observait à la fois la situation de classe et l'entretien. À l'issue de cet entretien, il y avait une autoconfrontation, enfin c'est pour la part de mon travail, hein, ce que je présente, d'autres collègues ont travaillé différemment, on a travaillé sur l'analyse, le débriefing entre guillemets, de ce qui s'était passé en entretien entre nous, entre deux formateurs, pour essayer, alors ça je l'ai compris peut-être après, par mes lectures, pour essayer justement de travailler sur ces raisons d'agir, cette activité, passer d'une activité réelle, observée, au réel de l'activité, hein. Enfin, je trouve que c'est un peu ça. Cette idée-là, elle a été d'alimenter les contenus de notre formation, de nos journées avec Patrick, à partir de ces expériences par analyse du travail. Donc ceci, ces recueils ont été triés, sélectionnés par Patrick, et lors de nos retours en grand groupe, collectif, on a travaillé sur ces autoconfrontations et les dilemmes des postures dans notre activité que l'on prenait vis-à-vis des débutants. Voilà. Et bien sûr, évidemment, toujours avec une lecture a posteriori, habilement, c'était quand même centré sur des situations critiques des entretiens, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'était passé pour introduire l'entretien, par exemple, qui sont quand même une des postures qui est, enfin une des clés de notre activité quand on démarre un entretien avec un PES ou un T1, comment on démarre l'entretien. Donc on a comparé, on a analysé les verbatims, parce que d'autres collègues ont travaillé sous forme, pas forcément vidéo, mais simplement de recueil de transcription d'enregistrement. On a travaillé à partir de ça pour essayer de susciter chez les collègues, enfin chez nous-mêmes, hein, puisque voilà, une interrogation sur est-ce qu'il existe une bonne pratique. En gros, tous les dilemmes qui ont été un peu évoqués aussi, qu'a évoqué Patrick aussi hier sur le schéma de chez Aliès, là, sur est-ce que j'aide, est-ce que je conseille, quand je suis UN, est-ce que j'aide, est-ce que je conseille, si je suis CPC, est-ce que je suis la même chose, quand j'ai un T1, voilà. On a travaillé, on a brassé tout ça. L'idée de ça, c'est quand même dégager, à mon avis, des gestes quand même de métier, des gestes qui font notre genre professionnel, c'est-à-dire, bon, on a des entrées, on a des organisateurs de notre activité, on est capable de... quand on rentre dans un entretien, on a forcément en tête un modèle d'entretien, mais à la fois aussi de travailler sur les singularités, hein, de chacun des formateurs. Donc, on a travaillé sur ces deux axes. Alors, je pense que mon discours retranscrit pas forcément ce que tous les formateurs ont pu lire de l'activité, enfin de ce que tu nous as présenté. Elles s'inscrivent un petit peu dans une analyse réflexive de ce que j'ai vécu, quoi. Voilà. Hein. Alors les effets. Les effets de cette de ce dispositif sur qui est un dispositif de formation de formateurs auprès de dans notre activité quotidienne. Alors au niveau du collectif. Je ne peux pas m'engager à parler au nom de mes collègues. Simplement, il y a eu des reprises au sein de nos animations, nos rencontres CPC, d'un travail qu'avait fait Yves Clos sur l'analyse d'activité. On a essayé de creuser un petit peu ce champ-là. On a un petit peu de mal, pour être honnête, à travailler en collectif. Tout simplement pour des questions de temps institutionnel qui ne sont pas forcément reconnues. Donc on pourrait parler d'activités empêchées, mais on n'ira pas jusque-là. Difficulté donc quand même à faire vivre ce collectif. Alors, au niveau personnel, je pense que, en tout cas dans ma pratique, j'ai utilisé donc l'année dernière, donc c'est une formation qui a eu lieu il y a 2 ans. L'année dernière, donc, j'avais laissé ça un petit peu de côté, enfin je veux dire... J'ai quand même eu affaire à 2 situations critiques auprès d'une PES et puis d'une T1 en situation de difficulté, dans lequel les dispositifs traditionnels d'entretien, visite, maître formateur, conseiller pédagogique ne faisaient pas évoluer la pratique. Donc là, j'ai utilisé, entre guillemets, la démarche que j'avais vécue pour essayer de travailler avec ses collègues en situation critique, qui étaient donc sur la limite d'amendement de poste, pour travailler sur... Alors là, je rejoindrai un petit peu ce qu'avait dit, je pense, Simon Flandin, c'est-à-dire sur cette... c'est un travail en urgence, quand même, hein, sur l'idée de faire naître de l'insatisfaction par rapport à sa propre activité. C'est-à-dire que les entretiens de visite se passaient... on n'arrivait pas à faire naître... Dans le dialogue qu'on engendrait avec les deux collègues, PES et T1, on n'arrivait pas à faire naître ce... Alors je pense que c'est révélé, je crois que tu as utilisé, l'activité, l'analyse d'activité comme ça, orale, à travers l'entretien, ne révélait pas d'insatisfaction. Donc, difficulté à transformer l'activité de ces deux, au moins de prise de conscience de la nécessité de transformer son, sa pratique. Donc on a travaillé sur le, alors complètement empiriquement, je pense que là je suis pas du tout dans le cadre, mais bon, voilà, on a fait appel à la vidéo dans un entretien, dans des entretiens d'autoconfrontation. Donc classique, on vient filmer et puis on débrief ensuite. Alors on analyse la. Enfin, j'ai reproduit ce qu'avait fait Patrick avec nous. Et là, je dois dire que j'ai quand même été. Alors c'était deux situations. Enfin, il faut quand même analyser les pourquoi il y avait blocage. Il y avait une situation de gestion de groupe critique dans un cas, et dans l'autre, c'était une gestion de du groupe en classe maternelle qui faisait que la maîtresse n'était jamais présente avec les enfants. Elle était toujours attirée par autre chose. Elle se mettait en position de maîtresse dans son atelier, et puis au bout de deux secondes, elle faisait autre chose, elle régulait un groupe à côté, etc. Elle ne le voyait pas. Donc je lui dis, le seul moyen, bon, on avait beau reformuler, lui dire, ça ne marchait pas, il n'y a pas de transformation de visite à l'autre. Donc on a travaillé là-dessus, on lui a proposé sa propre image, avec toutes les précautions, voilà. Et c'est empirique ce que je vous dis, mais toujours est-il qu'il y a eu un engagement, une transformation, une prise de conscience, et sans rien faire là. Pour le coup, le formateur, il met le film, c'est hyper confortable, il met le film. Alors on était quand même au bout d'un processus de visite, hein. C'était pas la première visite, elle savait qu'on essayait de travailler, elle se demandait bien pourquoi je revenais, hein. Parce que j'arrivais pas à lui faire percevoir ce sur quoi il fallait qu'elle travaille. Et là, c'est instantané, quoi. C'est-à-dire, là je suis pas avec mes élèves, là, je me lève déjà. Alors on la voit partir, elle revient dans le champ de la caméra. Voilà. Donc là, on a pu travailler. C'est-à-dire que ça a été pour nous un élément déclencheur sur la prise de conscience révélée, ciblée, je sais pas, d'une insatisfaction par rapport à son métier. Le métier rêvé l'activité rêvée qu'elle pensait faire là, qui n'était pas le réel de son activité. Idem pour la situation sur la PES. D'un point de vue déontologique, je ne peux pas mettre... Pardon ? Professeur stagiaire, voilà. Je peux pas m'étendre trop sur la description de ce qui s'est passé là, parce que bon, c'est un engagement entre elle et nous. Mais en gros, c'était la même situation, c'est-à-dire une situation de classe dégradée. Je veux dire que Romain à côté, et nous étions en école élémentaire. C'était vraiment de la... j'ai trouvé des situations encore plus dégradées que celle de Romain. Pas parce que le groupe dysfonctionnait, parce que le groupe classe, je le connaissais. Hélas, entre guillemets, pour la collègue, c'est-à-dire que j'avais vécu dans l'école et je le connaissais, je savais très bien que si la situation était telle, c'est que ce n'était pas le groupe qui dysfonctionnait, mais c'était l'activité et la pratique de l'enseignante qui engendrait ça. Donc on a travaillé sur ces images-là, des images très dures, très difficiles. Ça a été un pari, c'est-à-dire qu'on était sur une situation critique. C'était tout ou rien, quoi. Soit tu changes maintenant, soit dans un mois et demi, tu démissionnes. Alors, ça, c'est... Le contrat était clair, quoi. C'est-à-dire, on va vivre une situation difficile, mais si on passe pas par là, on n'y arrivera pas. Des visites de formation, de mettre formateur toutes les semaines, ça ne marche pas. Les visites de conseil pédagogique, ça ne marche pas. Voilà. Enfin, voilà. On en était à ce point-là. Donc là, pareil. Donc ça a été un écroulement, hein. Visionnement de la situation. Moi, qui fais classe avec des élèves qui rampent, des élèves qui se lèvent, qui jettent des gommes, qui se tapent dessus. Bon, voilà. Ça, c'est moi. Enfin, c'est ma classe. C'est pas possible. Voilà, un effondrement. Donc après, il a fallu travailler sur un contrat de renégociation de comment on allait l'accompagner suite à cette prise de conscience. Voilà, on lui a dit, on avait besoin de passer par là. Maintenant, on s'engage, on reviendra filmer. On va mettre en place un dispositif d'aide, d'accompagnement. On va venir dans ta classe. On va faire de la co-intervention avec toi de classe. On va travailler avec certains de tes élèves. On va peut-être recadrer. On va en gros on va te redonner un groupe qui va fonctionner. Tu as pris conscience de ton activité, ton insatisfaction dans ton activité. Et ensuite, on viendra filmer, on viendra voir et on mesurera l'écart. Et le pari, c'est on boira le champagne ensemble, quoi. Alors, on n'a pas bu le champagne ensemble. On a bu du vin blanc. Mais, alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Parce que j'aime bien cette expression, je trouve qu'elle est parlante. Mais n'empêche que je pense qu'en termes de santé au travail, pour un formateur, vivre ce genre de situation, c'est-à-dire sauver quelqu'un qui n'avait jamais, il fait quand même pas un seul jour d'absence. C'est-à-dire qu'elle est en souffrance, cette collègue, elle est en souffrance, mais pas un jour d'absence, jamais de démission. toujours volontaire, mais par contre une difficulté à appréhender sa relation à l'autorité, etc. Donc voilà. Alors, c'est très brouillant ce que je vous dis. Simplement, des effets sur, de la formation de formateur sur ma pratique, je voudrais l'élargir. C'est-à-dire que le questionnement que je me pose actuellement, c'est par rapport à Néopass, c'est finalement, nous formateurs, on a un outil à disposition qui est très riche, qui est très puissant. Comment, sans vivre soi-même en tant que formateur, une situation de développement professionnel dans son activité, comment je vais pouvoir arriver à identifier les tenants et les aboutissants de mon outil, quoi. C'est-à-dire, Néopass, c'est très bien, des entretiens d'autoconfrontation, des instructions au sosie, bon, dans des utilisations de Néopass. La question que j'aimerais creuser, c'est celle-ci, quoi. C'est en quoi le fait d'avoir vécu une formation habilement menée, que j'ai pu décrypter beaucoup, enfin, que j'ai pas encore décrypté entièrement, mais en quoi cette formation de formateur m'a permis, enfin, a engendré chez moi un développement professionnel que je comprends peut-être mieux, qui me permet de m'approprier peut-être l'outil Néopass, ou du moins la démarche orientée à activité, voilà. C'était le questionnement que je voudrais ouvrir sur une question, en fait. Voilà, l'autre dimension de l'apport de Patrick dans sa formation de formateur, c'est... Alors, je ne me suis pas inscrit à Lyon, je suis allé à Clermont. Chez Guillaume Serre. Voilà.
Alors, il avait dit, j'arrive vraiment pour 5 minutes. Hein.
Je suis désolé.
On a commencé à l'admi. Donc, merci à toi. Merci d'oser. Question.
Oui, juste une
réaction.
Merci vraiment pour ce témoignage poignant. Au début, j'avais introduit sur le développement comme objet d'étude et de transformation ou formation. Et ce qui me semble intéressant, c'est que moi, j'en fais un objet d'étude pour la formation des débutants. Mais on voit bien que ça s'accompagne forcément par la formation, la transformation, le développement des formateurs. Et c'est là qu'il faut qu'on soit tous ensemble avec des regards différents. C'est-à-dire que moi, je suis chercheur. Je crois qu'il ne faut pas tout confondre, hein, dans une sorte d'amalgame, dans une sorte de symbiose fusionnelle faisant qu'on n'arrive plus à voir les lignes. Il y a des chercheurs, il y a des formateurs, il y a des inspecteurs, mais malgré tout, il y a un certain nombre de prérequis qu'on peut partager. Et il me semble que ce que tu dis très bien, c'est t'es sur un chemin de développement personnel, mais ce que tu décris dans la façon d'aider des débutants, je trouve que là, il y a une lumière, il y a une lumière d'espoir, et qu'il faut que tu puisses mettre des mots sur progressivement et que tu gagnes, tu quittes un peu tes émotions progressivement et que tu gagnes un peu en intelligibilité de ta façon de construire ces artefacts de formation, ces aides, et je suis convaincu qu'il y a un gros chantier à mener sur ce point-là, en tout cas. Merci.
Autre question ?
Non, juste une petite réflexion, parce que j'aimais bien une de vos dernières phrases en disant comment peut-on utiliser l'outil sans avoir été soi-même être analysé par l'outil. Et donc là, je suis tout à fait d'accord, parce que je pense que le risque, si ça ne se passe pas, c'est que l'on plaque son modèle de formateur sur tout le monde. Donc tant qu'on n'a pas mis à jour finalement un peu, enfin je reviens avec le mode de fonctionnement, nos stratégies cognitives, comportementales et tout ce qu'on veut, on va tout le temps plaquer son modèle. Donc c'est comme quand on demande à un analyste qui fait des analyses psy et autres de passer d'abord lui-même par une analyse.
Cette question-là, elle est venue aussi, enfin c'est par rapport à l'intervention de Lucria hier sur le scaphandre et les personnes en fin de vie, mais personnes âgées, c'est-à-dire le fait de comprendre l'activité des débutants, leur développement professionnel, à la lumière de, peut-être, enfin, et dans une démarche quand même orientée à activité, à la lumière de quelque chose qu'on a vécu soi-même. Enfin, alors, on n'est pas débutant, bien qu'on soit débutant dans certains domaines. Je ne sais pas
quelle est la réflexion. Ce ne sont plus les mêmes débutants non plus dans les mêmes contextes d'intervention. Hein. Je pense qu'il faut...
Tout à fait.
Tout à fait la similitude avec une analogie dans une situation, mais finalement, le travail d'accompagnement, c'est aussi un travail où on va essayer d'accroître le pouvoir d'agir des gens sur les situations problématiques dont tu parles. Donc, comment se développe l'expérience ? Et là, du coup, dans le travail que tu fais, c'est aussi essayer de rendre compte, de rendre visible ce développement d'expérience. Donc là, enfin, moi, quand je vous entends parler, notamment les gens qui ont suivi des formations, ce que je note, c'est quand même, il y a aussi une appropriation, au moins, des outils théoriques chez la collègue, des concepts, des modélisations, mais aussi des techniques de faire. Et donc là, on voit bien aussi comment ça accroît votre pouvoir d'agir sur la modélisation ou la mise en œuvre de nouvelles formations. Donc il y a un développement en tous les cas, puisque nous, sur AirGap, c'est sur ça que l'on travaille, sur le développement. Donc c'est ce qu'on voit.
Une toute petite question. Est-ce que ça peut se faire sans violence ? Sur la violence de l'étape ?
Ouais.
Oui. Avec vous, tu veux dire ? Avec le conseiller pédagogique ?
Ben, il me semble qu'il y a toujours une étape très violente, quoi. Est-ce que le changement nécessite cette étape de violence ?
Non, là, si, on est allé jusqu'à cette étape-là parce qu'on avait épuisé nos modèles de faire, nos modèles opératifs, nos prises d'indices, enfin, diagnostics de situation, on était démunis. Et c'est vrai que le recours, alors ce qu'on avait oublié peut-être temporairement pendant 4-5 mois, qu'on a mis de côté ce travail on l'a fait ressurgir au moment où on était en situation critique. C'est une question de vie ou de mort professionnelle pour deux jeunes collègues, quoi. Et voilà. Alors c'est là où je rejoins ce que disait Christiane Félix. Il me semble que on a étendu, alors empiriquement, maladroitement, notre pouvoir d'agir, notre activité de professionnel de la formation en essayant ça. Alors la violence. Alors ça, moi, je suis pas assez. Pas moi qui peux répondre, mais la violence par rapport à l'image. Juste, enfin, par rapport à ta question, je pense aussi le fait d'avoir vécu la situation, d'être filmé et d'être diffusé auprès de l'ensemble des collectifs de formateurs IUN, CPC du département du maître formateur, je veux dire, c'est violent. Enfin, donc du coup, appréhender la situation que peut vivre la collègue, bon, en plus dans une situation complètement dégradée, elle était totalement anticipée et totalement, voilà, ça a été, on a sorti cette carte là. Au moment où on n'avait plus d'autre choix. Voilà.